IBFM, le journal Hasmik Papadian.
Bonjour à tous. Une trentaine d'arrestations et des centaines de policiers déployés pour fermer des routes dans le Tavush. La situation se dégrade en Arménie alors que les autorités durcissent le ton face à la mobilisation populaire contre la cession de territoire à l'Azerbaïdjan. Cela fait déjà 2 semaines que le mouvement Tavush pour la patrie a été lancé pour protester contre la décision du gouvernement de rendre 4 villages de cette région à l'Azerbaïdjan dans le cadre du processus de démarcation de la frontière, avec des barrages de voitures sur les autoroutes reliant Yerevan aux autres régions et des rassemblements permanents comme à Kilant, épicentre de la protestation. Un mouvement motivé par l'inquiétude, les villageois des zones frontalières redoutant à juste titre les conséquences pour leur vie de cette redéfinition de la frontière qui va les placer à portée de tirs azéris, sans parler des pertes sèches pour les agriculteurs qui ne pourront plus accéder à leurs terres. Voulant se montrer ouvert à la discussion, Nicole Pachignan avait reçu lundi un groupe d'habitants de Kilant qui sont ressortis de cette rencontre encore plus inquiets, car le Premier ministre a confirmé que les autorités ne pourront pas assurer la sécurité des habitants concernés par le processus. Un processus totalement déséquilibré où seule l'Arménie lâche du terrain face à un Azerbaïdjan qui ne cache pas ses ambitions territoriales, et tout cela au mépris de la Constitution qui prévoit que tout changement de frontière doit obligatoirement passer par un référendum. Une consultation populaire, donc, qui n'est pas à l'ordre du jour du gouvernement, alors que sur le terrain, la population exprime clairement son rejet pur et simple de cette cession, de cette concession, faut-il dire plutôt, territoriale faite à bas coût. Face à la contestation populaire qui a gagné d'autres régions du pays et même la capitale, les autorités semblent avoir décidé de recourir à la manière forte avec l'envoi, donc hier matin, de centaines de policiers pour lever le barrage installé près de Kilant. Après avoir dispersé les protestataires manu militari, procédant à une trentaine d'arrestations, y compris de mineurs, les forces de l'ordre ont elles-mêmes fermé les routes menant au village pour empêcher toute personne étrangère de revenir former un barrage, et seuls les habitants ont ensuite été autorisés à aller et venir librement. Certes, toutes les personnes interpellées ont par la suite été relâchées, mais certaines après avoir été passées à tabac sans aucune raison, et cela n'a fait que renforcer l'indignation face à cette intervention policière particulièrement brutale, dénoncée par le mouvement Tavush pour la patrie, qui appelle tous les Arméniens à poursuivre les actions de désobéissance civile dans l'ensemble des régions d'Arménie, non seulement en réponse à cette opération musclée des forces de l'ordre, mais aussi pour maintenir la pression sur les autorités et empêcher la poursuite du processus de démarcation de la frontière tel qu'il a été annoncé par Nicole Pachignan. Car le gouvernement est bien décidé à aller au bout du programme, comme le montre le communiqué du ministère de l'Intérieur publié hier pour expliquer l'opération de police menée à Kilant, parlant de la nécessité de préparer le terrain pour permettre aux services compétents de nettoyer la zone des mines terrestres et effectuer les mesures techniques pour pouvoir marquer d'une borne la frontière à cet endroit, comme c'est déjà le cas en une quarantaine de points dans le Tavush, avec les conséquences déjà évoquées pour les 4 villages qui passeront du côté azéri, mais aussi pour toutes les localités alentours qui se retrouveront juste sur la frontière arméno-azéri. Et pour mener à bien ce programme, le gouvernement utilisera les moyens nécessaires, a prévenu hier en Conseil des ministres Nicole Pachignan, qui a justifié l'intervention policière de Kilant en indiquant que la police est responsable de la sécurité, ce qui signifie, dit-il, qu'elle a un droit légitime de recourir à la force. Pour l'opposition, les propos de Nicole Pachignan et l'opération policière particulièrement violente d'hier ne font qu'encourager l'Azerbaïdjan à demander plus encore à l'Arménie, voire à lui permettre de lancer une offensive militaire par surprise. De fait, au vu des événements tragiques de ces dernières années et face au non-respect total de ses engagements par le pouvoir azéri, la crainte est bien réelle et nombreux sont les habitants des villages frontaliers qui sont déjà prêts à partir pour ne pas se retrouver exposés aux attaques azéries lorsque la frontière passera juste devant leur maison. L'opposition, dont l'un des dirigeants du groupe Hayastan, Seyran Ohanian, ancien ministre de la Défense, est de nouveau monté à la tribune du Parlement hier pour accuser Nicole Pachignan de fouler aux pieds les valeurs nationales, de tout détruire et d'accroître la menace qui pèse sur l'Arménie, dénonçant une fois encore cette cession de terre dans le Tavush à l'Azerbaïdjan, alors que, faut-il le rappeler, ce dernier occupe quelque 200 km² de territoire arménien sans que leur rétrocession ne soit exigée noir sur blanc dans le cadre du processus de délimitation de la frontière. L'Azerbaïdjan, qui impose sa loi à l'Arménie, n'a en outre aucun scrupule à étendre ses exigences à l'international. C'est ainsi qu'il a exigé il y a quelques jours le retrait du drapeau de l'Alsace qui orne l'entrée de Bourg-les-Valences aux côtés des drapeaux français et européens. Une demande fermement rejetée par la maire, Marlène Mourier, qui a prévenu par voie de presse qu'elle ne cédera ni aux menaces ni aux injonctions de la dictature azérie. 4 ans après une première injonction similaire et bientôt 10 ans après la remise en cause de la charte d'amitié conclue entre Bourg-les-Valences et Chouchi, cette nouvelle ingérence de la dictature azérie dans les décisions d'une commune de la République française s'ajoute à la liste des précédentes attaques subies par la municipalité, précise le communiqué, qui rappelle également les événements survenus en Artsakh, qui s'est conclu par l'exil de ces 120 000 Arméniens suite à l'annexion du pays par l'Azerbaïdjan. La maire de Bourg-les-Valences, Marlène Mourier, avait reçu la demande de l'Azerbaïdjan précisément le 24 avril et elle n'avait pas manqué dès cet instant de rappeler son investissement pour la défense du territoire de l'Artsakh et son indépendance, ce qui déplaît fortement à l'Azerbaïdjan, avait-elle noté, soulignant qu'en cette journée du 24 avril, il est important de rappeler qu'un second génocide menace le peuple arménien si les gouvernements et les institutions internationales ne réagissent pas. Et c'est également pour mobiliser la communauté internationale que 66 membres du Congrès américain lancent un appel en faveur d'une aide de 200 millions de dollars pour les réfugiés d'Artsakh, mais également pour aider l'Arménie à se protéger de l'agression de l'Azerbaïdjan. Dans leur courrier adressé au département d'État américain, les élus demandent également que les États-Unis réfléchissent à des sanctions contre les responsables azéris et ils exhortent donc à prendre les mesures nécessaires avant que le régime d'Aliyev ne déclenche une nouvelle guerre contre l'Arménie. Un dernier mot avant de refermer ce journal pour vous annoncer que la compagnie aérienne Fly One Arménien a commencé à opérer des vols entre Nice et Yerevan depuis hier. Les vols seront effectués 2 fois par semaine, chaque jeudi et chaque dimanche. Voilà pour l'actualité de ce jour. Merci de votre attention et bonne journée.
Et maintenant, c'est l'émission Cette année-là, l'Arménie, sur Hype FM. Cette année-là, l'Arménie, présentée par Frédéric Galbis Manoukian.
Aujourd'hui, suite des événements de l'année 1993, c'est la 26e émission. Bonjour à tous. Je voudrais revenir en ce début d'émission sur un fait dont j'ai parlé précédemment concernant les relations entre Israël et l'Azerbaïdjan. Nous étions dans l'attente d'une réponse de la part de l'ambassade d'Israël. Elle est finalement arrivée. Voilà ce qu'on peut en dire. Il avait été fait état de relations militaires en gestation entre l'Azerbaïdjan et l'État d'Israël à partir d'un article très circonstancié du journal Le Figaro. Sur la base des affirmations du docteur Aaron, il était prévu une prise de position du CRIF et de l'ambassade d'Israël. Relancé par France-Arménie, le CRIF considère que ce problème ne les concerne pas directement et que, ne représentant ni l'État français ni l'État d'Israël mais une organisation, il ne lui appartenait pas de publier de communiquer sur cette affaire. Quant à l'ambassade d'Israël à Paris, par son chargé d'information Dori Goren, elle affirme qu'après avoir interrogé Israël, celui-ci leur a confirmé aussitôt ne jamais s'être engagé dans cette voie. De ce fait, l'ambassade dit que le ministère israélien ne peut adresser de démenti pour cette affaire sur laquelle il ne s'était jamais engagé. C'est ce qui s'appelle « botter en touche ». Mais en même temps, l'agence Itartas annonce que l'ambassadeur israélien en Russie, Haïm Bar-Lev, et le président azerbaïdjanais Aboulfaz El-Chibey sont tombés d'accord le 30 janvier sur l'ouverture d'une ambassade israélienne en Azerbaïdjan. Celle-ci serait la 5e république de l'ex-URSS à avoir une ambassade de l'État hébreu après la Russie, la Lettonie, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Dont acte. Nous sommes le 11 mars 1993 et cette date marque l'arrivée à Paris du président de la République d'Arménie, Levon Ter Petrosyan. Jean-Noël Kouyoumdjian raconte que le président fut reçu à l'aéroport d'Orly par le ministre du Commerce extérieur et de l'Industrie, Dominique Strauss-Kahn. Le président conduisait une importante délégation composée principalement du vice-premier ministre Vikhen Chitechian, du ministre d'État Vasken Sarkissian, du ministre des Affaires étrangères Vahan Papazian, de divers membres de son cabinet et de conseillers. Les rencontres officielles franco-arméniennes ont eu lieu le lendemain. D'abord à Matignon, dans la matinée où, au cours d'un entretien de trois quarts d'heure, Levon Ter Petrosyan a fait le point avec le Premier ministre Pierre Bérégovoy sur la situation en Arménie et la question du Haut-Karabakh. Pierre Bérégovoy l'a assuré du, entre guillemets, « vif souci de la France de voir se lever le blocus de l'Arménie exercé par l'Azerbaïdjan ». Les deux hommes ont évoqué les perspectives de coopération dans les domaines de l'énergie, des communications et du ravitaillement, ainsi que l'action de la CSCE pour le règlement du conflit du Karabakh. D'autres entretiens se sont déroulés dans la matinée avec le secrétaire d'État à la francophonie et aux relations culturelles internationales, Catherine Tasca, et le président du groupe RPR au Sénat, Charles Pasqua. Le président français, François Mitterrand, a accueilli son homologue arménien au palais de l'Élysée. Après une demi-heure d'entretien en tête-à-tête, un déjeuner officiel et la signature du traité d'entente d'amitié et de coopération, les deux présidents ont donné une conférence de presse. Levon Ter Petrosyan a appelé à une médiation active de toute la communauté internationale pour l'établissement d'un cessez-le-feu au Karabakh. Nous comptons tout particulièrement sur le soutien de la France dans ce domaine, a dit le président arménien. Pour sa part, François Mitterrand l'a assuré de la solidarité de la France. Vous avez des problèmes spécifiques à la région du monde où se trouve votre pays. De toutes parts, vous avez à parer à des menaces de toutes sortes et il est normal que la France se considère comme liée par cette longue amitié qui se perpétue aujourd'hui. Telle est notre intention et notre volonté, a réaffirmé le président français. Toujours les belles paroles que s'est si bien prodigué François Mitterrand. Lors de sa visite en France, le président arménien a tenu également à rencontrer la communauté arménienne. Cette rencontre a eu lieu le 13 mars au Palais des Congrès à Paris, devant une salle de plus de 2000 personnes. C'est là qu'il a fait le point de la situation en Arménie. Dans l'assistance, toutes les personnalités politiques et religieuses de la communauté, sur la tribune, un aréopage de nouveaux dignitaires de la République d'Arménie, parmi lesquels le nouveau chargé d'affaires arménien en France, Vahan Der Kevontian. Assis auprès de Levon Ter Petrosyan, Charles Aznavour, chaudement félicité pour son action en faveur de l'Arménie, qui a reçu un titre officiel des mains du président, celui d'ambassadeur at large, c'est-à-dire d'ambassadeur itinérant. Levon Ter Petrosyan a fait le tour des différents aspects de la politique arménienne. Rendant hommage au peuple arménien pour le terrible hiver qu'il avait enduré, il s'est engagé à tout faire pour que cela ne se reproduise pas. Sur la politique intérieure et l'économie, il reste de nombreux progrès à réaliser. En Arménie comme partout dans l'ex-URSS, pour détruire nous sommes des maîtres, mais pour construire encore des élèves, a-t-il dit. Il a enfin réaffirmé le mérite du peuple arménien et son attachement au règlement des problèmes du Karabakh. Toutes les républiques de l'ex-Union soviétique rencontrent des difficultés dues au changement de système, déclare Levon Ter Petrosyan. L'Arménie, par sa situation et son histoire, fait face en plus à de difficultés spécifiques extrêmement lourdes. Le problème de la zone sinistrée attend toujours d'être réglé. L'Arménie accueille 300 000 réfugiés d'Azerbaïdjan. Elle est encerclée et soumise à son blocus. Et le plus grave, la guerre dans le Karabakh. Chacun des problèmes pris individuellement serait insupportable pour n'importe quel peuple. Mais le peuple arménien les supporte tous ensemble, la tête haute, avec un grand mérite. Parce qu'il sait que le prix qu'il paye, les difficultés qu'il surmonte, il le fait pour une grande idée, la liberté de l'Artsakh. Dans le prolongement de cette visite, l'ambassade d'Arménie en France va être inaugurée. Les locaux mis à la disposition par la ville de Paris pour abriter les services de l'ambassade ont été inaugurés le 13 mars à l'occasion de la visite en France du président arménien. Une petite cérémonie s'est déroulée sur les lieux au 26 rue d'Aude de la Brunnerie dans le 16e arrondissement en présence du nouveau chargé d'affaires Van der Geventian, de Pierre Lelouch représentant Jacques Chirac, André Santini, Patrick Devedjian, Eric Raoult. L'ambassadrice de France à Yerevan, Madame France de Harting, était également présente. Des membres de la communauté arménienne de Paris avaient été invités à la cérémonie. L'installation de l'ambassade rue d'Aude de la Brunnerie a un caractère provisoire en attendant l'acquisition par l'Arménie de locaux bien mieux appropriés. L'Arménie étant un pays extrêmement centralisé, on a une tendance à parler principalement de Yerevan, mais aussi bien sûr du Karabakh en ces temps de guerre. Comme on dit qu'il y a New York et le reste des États-Unis, on dit la même chose de l'Arménie, qu'il y a Yerevan et le reste, bien qu'à cause du tremblement de terre, le monde entier ait appris les noms de Spitak et Léninagan. Mais justement, pour sortir de ce cliché, dans le numéro du mois de mai de France-Arménie, un reportage est consacré à la ville de Goris, aux avant-postes du Karabakh. Il est signé Yernik Mansini et donne une idée assez réaliste des conditions de survie des habitants du Sionik. Voici ce récit en détail. 4h30, le réveil sonne. Endormi machinalement, on appuie sur l'interrupteur. Rien. Pas d'électricité. À tâtons, on cherche les lampes de poche, direction la salle de bain. On tourne au robinet, un bruit sourd se fait entendre. Pas d'eau. 5h, on rejoint nos 3 soldats gardes du corps qui doivent nous conduire à Goris. Dehors, pas de lumière, les rues sont désertes. Une voiture, la nôtre. Avec les premiers rayons du soleil, nous longeons la frontière du Nakhitchevan. Ici, le passage est délicat. Le plus jeune, l'arme sur les genoux, scrute l'horizon. Nous traversons un village de réfugiés de Bakou. Les maisons sont grises, délabrées. Les premiers flocons de neige tombent. À Vaik, les gens s'activent. Ils partent travailler à l'usine. Ils ont de l'électricité. Vers 8h, nous arrivons à Saravan, un village à mi-chemin entre Yerevan et Goris. Il neige de plus en plus. La route est glissante et, comble de malheur, la voiture s'embourbe. Pendant 2 heures, nos 3 soldats stoïques vont s'activer à la dégager en vain. Trempés, frigorifiés, ils décident de retourner sur Saravan où ils s'invitent chez une famille. Nous demandons une tasse de café. La maîtresse de maison gênée répond qu'elle n'en a pas. On partage leur repas, on leur offre du chocolat, des bougies et un paquet de café de France. 14h, nous repartons. De loin, on réalise que la route est toujours bloquée. Camions militaires de la Croix-Rouge, du HCR, le Haut Commissariat pour les Réfugiés, attendent toujours. Il y a 3 mètres de neige. 17h, enfin, les camions militaires, les cars de Stepanakert continuent leur chemin vers Yerevan. Nous gardons l'espoir d'arriver à Goris. La route est très accidentée, mais il n'y a plus de neige. Nous croisons un convoi militaire, 2 camions-citernes, tous ont la même direction, l'Artsakh. 19h, Goris, on n'y croyait plus. Ce fut une longue journée, mais il y eut aussi une longue soirée. Notre famille d'accueil nous a fait la fête, nous avons trinqué tard, très tard. Le lendemain, il nous a fallu seulement 5h pour rentrer sur Yerevan. En chemin, à la hauteur de Sisian, nos amis ont tiré une salve pour saluer notre retour sain et sauf. Tous 3 ont combattu au Karabakh. À chaque retour, ils avaient coutume de se rendre à Holvila pour allumer un cierge. Ils nous proposent de nous y conduire. Discrètement, ce jour-là, chacun de notre côté, nous avons prié. C'était le 27 avril 1993. « Dans ce même journal, d'autres articles sont consacrés à cette ville charnière, la porte d'entrée du Syunik, qui a, elle aussi, beaucoup souffert de la guerre avec le Karabakh, ainsi que du blocus imposé à l'Arménie. Almast Karakian raconte sa rencontre avec les gens de Goris, notamment Kurken, ainsi que sa visite à l'hôpital de la ville. Dans sa grande police, par sa stature et son port de tête altier, Kurken, 72 ans, se remarque tout de suite. Il vient à notre rencontre. Originaire du Karabakh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a combattu. Comme lui aujourd'hui, ses fils et ses petits-fils ont pris les armes pour se défendre contre l'agresseur. Kurken vit seul à Goris. Son regard bleu scrute souvent l'horizon dans l'attente d'une attaque surprise ou de la venue des enfants, qui sait. Il explique que face aux agressions subies déjà bien avant la guerre, vol de nourriture et pillage, il n'avait pas d'autre alternative que de se défendre. D'autres réfugiés comme lui sont installés dans des domiks, des baraquements en métal. La moitié d'entre eux travaillent dans les usines locales. Ils ont préféré rester dans cette ville frontalière, à 50 km du couloir de la Chine, pour maintenir le contact avec le Karabakh. On sent ici une ville forte. Les Arméniens se sont ancrés dans la vallée et ont accepté les hivers rigoureux, les intempéries, la dureté de cette terre. Ils inspirent le respect par leur enracinement. Les visages sont creusés. Ils résistent aux privations et à la terreur des bombardements pour se maintenir sur leur terre ancestrale. Les habitants subsistent en travaillant soit dans les usines textiles ou mécaniques de la ville, soit dans les ateliers de confection ou de cordonnerie. L'électricité est moins rationnée à Goris qu'à Yerevan grâce à une centrale électrique proche. On a le sentiment d'un travail besogneux et accompli sans relâche dans cette ville. Pourquoi ? Les larges rues bordées sont propres. Pas propre dans le sens occidental avec des trottoirs réguliers et des chaussées goudronnées, mais au sens d'un pays de l'ex-URSS. Le sol n'est pas parfaitement bitumé et souvent en terre battue, mais aucun caillou ne reste éparpillé. Les habitants balayent devant leurs portes. Le dernier bombardement date du mois de mars, mais les gravats ont été ôtés. Pour protéger les vitres des éclats des bombes, ils ont installé des sacs de sable devant leurs fenêtres. C'est un réconfort immense de voir Goris après la visite de Yerevan, la nonchalante qui s'abandonne. Dans la capitale, subissant durement la pénurie et la surpopulation, on voit souvent d'énormes caillasses jonchant les bords des routes et des rues. Les détritus, la poussière, les bâtiments dégradés sont le lot commun. Au contraire d'Yerevan, croupissant dans la spéculation et la facilité, Goris démontre que le cercle infernal se brise par sa volonté. Ses habitants ne laissent pas la saleté et donc la déchéance envahir la ville. L'architecture particulière des maisons en pierre avec les grilles de fer forgé ornant les fenêtres lui donne même une allure coquette. La terre des jardins est soigneusement bêchée, les herbes folles chassées, le stock de bois est bien aligné. C'est un formidable jardin qui démontre la foi dans un avenir meilleur. Cela nous rend la conviction que l'Arménien s'acharne envers et contre tout à embellir sa terre. C'est le triomphe de la puissance de la vie qui se développe ici. Heureusement, ce tableau presque idyllique n'est pas valable pour l'hôpital de Goris, car dans le dénuement le plus complet, personne ne désarme, ni le blessé, ni le chirurgien, faute de moyens. Attention, ce qui va suivre peut choquer les plus sensibles. En entrant dans l'hôpital de Goris, vous êtes glacé par la misère des bâtiments. Cette lumière qui s'étale sur les murs jaunes, sales et repoussantes. Les vitres éclatées par les bombardements sont remplacées par des feuilles de plastique. On se demande qui a l'espoir de guérir dans ces locaux affligeants. Mais la vingtaine de malades présents n'a vraiment pas le choix. Parmi eux, quelques blessés azéris et aussi 7 combattants du Karabakh sont soignés. Ils ont entre 19 et 37 ans. Ils sont originaires de la région de Goris, d'Etchmiadzin, de Khontsoresk. Ils racontent, étendus sur leurs draps douteux, comment ils ont reçu aux membres ou aux poumons une balle de sniper ou un éclat d'obus. Ils témoignent des horreurs vécues, les morts après les bombardements, les corps de leurs camarades mutilés par les Azéris. Ceux-ci s'acharnent à brûler les cadavres, leur couper le nez ou les oreilles. Ces visions tragiques leur inspirent une féroce détermination. Dès leur guérison, ils repartiront au combat. Ce ne sont pas des foudres de guerre, mais des défenseurs de la liberté, comme le dit la mère d'un jeune blessé. Elle se résigne à voir son fils combattre, malgré son inquiétude, et soutient la mission des soldats de la libération. Les enfants de ces mères courage ont la volonté chevillée au corps pour défendre les frontières du Karabakh et de l'Arménie. Garo a été atteint un mois plus tôt à Chournouk. Son pansement est taché de sang, il est fiévreux. « Je ne suis pas encore guéri car les moyens sont minimum ici », dit-il. Le dénuement de l'hôpital est flagrant mais reflète le retard accumulé par 70 ans de régime soviétique. Le chirurgien-chef, le docteur Grigorian, dirige une équipe de 6 chirurgiens. Ils reçoivent des blessés du Karabakh depuis 5 ans. Situé dans une ville frontalière, l'hôpital de Goris est l'étape des premiers soins aux blessés. Le choc dépassé, ils sont acheminés vers les hôpitaux de la capitale. En 1992, ils ont reçu 1500 blessés. Médicaments et accessoires leur parviennent grâce à la Croix-Rouge française, suisse et allemande. Mais cette aide est largement insuffisante pour soulager les combattants atteints de blessures multiples. Le docteur Grigorian ajoute que la gravité des plaies a augmenté au fil des mois, vraisemblablement à cause de l'armement encore plus sophistiqué utilisé par les Azéris. L'équipe médicale assure le minimum aux patients qui leur sont confiés. Sans une aide extérieure durable et d'envergure, la mission de l'hôpital de Goris ne peut pas vraiment progresser. Décidément, dans cette région du monde, les choses changent très rapidement. Jean-Noël Kouyoumdjan écrit qu'en effet, un nouveau pouvoir s'est installé à Bakou, ce que l'on pourrait appeler le temps des revanchards. L'avenir montrera que ce titre était décidément très prémonitoire. Il va mettre en place la dynastie des Aliyev, en commençant par le père Haïdar, et cette dynastie va durer un bon moment. L'Arménie et le Karabakh vont malheureusement subir les tristes conséquences, surtout avec le fils Ilham. La crise politique en Azerbaïdjan s'est provisoirement résolue avec la victoire de la rébellion et le retour au pouvoir d'un ex-communiste. Après 9 années, Haïdar Aliyev, l'ex-premier secrétaire du Parti communiste azéri et membre du Politburo de l'URSS, a repris la direction du pays, mais doit cependant la partager avec le colonel Husseinov. Comme en Géorgie, des chefs militaires se sont alliés à d'anciens communistes pour renverser les autorités élues. Haïdar Aliyev avait attendu son heure, retranché dans son fief du Nakhitchevan. Il ne s'était pas présenté aux élections présidentielles de juin 1992, lui qui était le seul susceptible d'inquiéter le candidat du Front populaire d'Azerbaïdjan, Aboulfaz Elchibey. Il avait préféré attendre que le Front populaire perdît de l'influence sur les masses, que la situation économique se détériorât, que le pouvoir en place subit les contre-coups de ses échecs militaires au Karabakh. La rébellion du colonel Husseinov a été providentielle pour Aliyev, lui qui pouvait difficilement envisager un tel mouvement à partir du Nakhitchevan, séparé du reste de l'Azerbaïdjan par le territoire arménien. Toute son habileté a consisté à ne pas apparaître comme l'allié des troupes insurgées, mais plutôt comme l'homme de la conciliation qui allait éviter à l'Azerbaïdjan une sanglante guerre civile. Profitant toutefois de la pression militaire exercée sur les autorités de Bakou, il s'était fait donner avec l'apparence de la légalité tous les leviers du pouvoir jusqu'à ceux du président. Il ne reste qu'il s'agit bien d'un coup d'État où l'allié objectif Husseinov est finalement devenu le chef du gouvernement. L'alliance du jeune colonel aux dents longues avec le vieux briscard de l'appareil communiste a de quoi surprendre, mais relève d'un mariage de raison entre le pouvoir militaire de l'un et le poids politique de l'autre. Les deux hommes sont des pragmatiques. Ils se réclament du peuple. « Je suis l'esclave de mon peuple », affirme Husseinov. Quant à Aliyev, il indiquait en réponse à la question d'un journaliste sur le retour en force des dirigeants communistes, seuls ceux qui ont la confiance du peuple sont arrivés au pouvoir. Leur programme est simple, sortir l'Azerbaïdjan de la crise politique, militaire et économique en laissant la direction du gouvernement au colonel Husseinov. Heydar Aliyev se cantonne dans le rôle d'éminence grise qu'il affectionne et qui lui permettra, en cas d'échec de son premier ministre, de durer à la tête de l'État. Alors, en quelques mots, qui est Heydar Aliyev ? Président du Parlement d'Azerbaïdjan depuis le 15 juin, Heydar Aliyev a obtenu le 24 juin le plein pouvoir pour diriger le pays à la place du président Elchi Bey, chassé par la fronde du colonel Surat Huseynov. Heydar Aliyev est né le 10 mai 1923 au Nakhitchevan, à une époque où cette région comptait encore 50% d'Arméniens parmi sa population. Il fut l'un des grands apparatchiks du système communiste soviétique formé dans le sérail de la police politique. Il est diplômé de l'école supérieure du KGB de Leningrad. Comme il se doit pour ce type de personne, il a gravi tous les échelons qui menaient au sommet du pouvoir. De 1966 à 1969, il fut le chef du KGB d'Azerbaïdjan avant de devenir dans la foulée premier secrétaire du Parti communiste azéri. À l'échelon de l'URSS, il fut membre suppléant du Politburo du Parti communiste de l'Union soviétique à partir de 1976 pour en devenir membre à part entière en 1982. Ambitieux, rompu aux intrigues politiciennes, il a été un courtisan attentionné de Leonid Brejnev et a largement participé au système de corruption qui s'est fortement développé sous son règne. Il fut donc naturellement l'une des victimes de la perestroïka et limogé en 1987 par Mikhail Gorbatchev. Rentré dans son Nakhitchevan natal, où il a sa statue dans la capitale, il n'a cessé de préparer son retour à la tête de l'Azerbaïdjan. À l'égard des Arméniens, Heydar Aliyev a toujours développé une politique agressive non dénuée d'habileté. Il appartient à une génération de responsables azéris qui ont réussi à éliminer toute présence des Arméniens au Nakhitchevan. Au Karabakh, s'il n'a pas pu éliminer l'élément arménien, du moins a-t-il réussi à faire stagner jusqu'à maintenant la population à 200 000 personnes, alors que dans le même temps, l'Arménie et l'Azerbaïdjan multipliaient leur population par 3. La venue de Heydar Aliyev au pouvoir inquiète les Arméniens du Karabakh. L'homme a 70 ans, il possède de l'expérience politique et a de solides réseaux de relations politiques à Moscou. Et les premières mesures ne vont pas tarder à tomber. Par décret du 1er juillet, le président par intérim de l'Azerbaïdjan a ordonné l'appel sous les drapeaux de tous les hommes âgés de 18 à 26 ans et leur inscription au sein des forces azerbaïdjanaises combattant au Haut-Karabakh. Dans l'un de ses premiers discours, Heydar Aliyev dira, je cite, « L'Azerbaïdjan pratiquera une politique indépendante et sera un État souverain. Aujourd'hui, tous les efforts doivent viser à reprendre les territoires azerbaïdjanais qui ont été occupés au cours du conflit du Haut-Karabakh, à rétablir l'intégrité territoriale de la République, à faire revenir la paix et le calme. » Voilà, les Arméniens sont prévenus. Dans toute cette ambiance quelque peu difficile, il y a quand même parfois des bonnes nouvelles et celles-ci nous parviennent du Karabakh. En effet, Martagelt a été libéré et les Azéris s'acharnent. C'est Jean-Noël Koumjian qui nous livre son reportage. Les combattants arméniens du Karabakh ont libéré le 27 juin la ville de Martakert, chef-lieu du district du même nom, occupé depuis un an par l'armée azerbaïdjanaise. Ce nouveau succès est l'aboutissement d'une contre-offensive arménienne après que les Azéris aient attaqué la veille en plusieurs directions les positions tenues par les Arméniens. Après la prise le 26 juin d'une hauteur stratégique dominant la ville de Martagelt, la position des troupes azéries devenait intenable et celles-ci ont évacué la ville sans résistance. L'offensive arménienne a également vu la prise de nombreux villages autour de Martagelt qui, elle, n'abritait aucune population civile et servait de casernement pour les militaires azéris. En un an d'occupation, elle a été pillée et entièrement minée. Après cette progression significative des forces arméniennes, les combats de position et bombardements se sont poursuivis dans la frange nord-est du district de Martakert, encore occupée, mais aussi aux confins des districts d'Askeran et d'Ardam. l'évolution de la crise en Azerbaïdjan et surtout le ralliement du colonel rebelle Surat Huseynov au président par intérim Haïdar Aliyev a amené un nouveau durcissement sur le front du Karabakh. Surat Huseynov a dépêché une partie de ses troupes en renfort sur le front dans le but déclaré de reconquérir le Haut-Karabakh. Après une phase de regroupement des forces, les unités azéries sont passées à l'offensive le 2 juillet au matin sur Adrout au sud du Haut-Karabakh. Dans un premier temps, les unités azéries ont réussi à percer les défenses arméniennes et occuper plusieurs villages. Cependant, dans la nuit du 2 juillet, les forces d'autodéfense sont parvenues à stopper l'avancée des troupes azerbaïdjanaises et à se positionner sur deux hauteurs dominantes du district. Les pertes azéries ont été importantes avec 30 morts et 21 soldats faits prisonniers, alors que côté arménien, il y eut 10 blessés. Le 1er juillet, le président Aliyev a ordonné l'appel sous les drapeaux de tous les hommes de 18 à 26 ans et leur incorporation au sein des forces combattantes du Karabakh. J'en ai parlé un peu plus haut. L'Azerbaïdjan s'engage plus que jamais sur la voie de la solution militaire ou tout au moins d'une revanche militaire. L'attaque générale du 4 juillet sur toute la frontière orientale du Karabakh illustre bien cette volonté. Elle s'est traduite par un nouvel échec cuisant de l'armée azérie, tandis que les bombardements continuels de Stepanakert ont obligé les forces arméniennes à neutraliser les bases de tir azérie des environs d'Ardam. Les pertes azéries se chiffrent en centaines d'hommes. Les Arméniens du Karabakh réalisent progressivement les objectifs stratégiques essentiels à la sécurité du pays. C'est donc tout pour aujourd'hui, pour cette année très agitée politiquement et militairement. Si vous avez manqué le début de cette émission, si vous voulez la réécouter, sachez qu'elle sera rediffusée vendredi prochain à 13h. Si vous écoutez Hype FM sur Internet, sur l'appli pour smartphone ou bien encore en DAB+, sachez qu'elle sera également rediffusée toujours le vendredi à 18h. L'émission, ainsi que les 25 précédentes, seront disponibles en podcast dès lundi matin sur le site de la radio, radio-hypefm.com, dans la rubrique Programme, Dossier, Cette année-là, l'Arménie. J'espère donc vous retrouver dimanche prochain, toujours sur Hype FM, la radio arménienne de Paris, 99.5 sur la bande FM, mais aussi en DAB+, ou bien encore sur Internet et l'appli Hype FM disponible pour vos smartphones, cela à partir de 12h15 pour la suite de notre série d'émissions historiques contemporaines consacrée à l'Arménie. Je vous parlerai de la suite des événements de l'année 1993 et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite de passer une très bonne journée. À très bientôt.
Suzume an un torne Yes gişerayi Avazivara Bornalu sabatsi Ardat solva Lini tsogheru Lini tsogheru
Այս մի երկի հեղինակը իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր որ իմ երկերն էին հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ հուսով եմ ձեզ էլ դուր կգա իմ գրած երկն է, թե երաժշտությունն է, թե խոսքերը։
Bonjour, vous êtes le président de Media School. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe ?
Nous avons 32 écoles spécialisées dans toute la France et en Europe. Nous avons fait l'acquisition de médias comme CB News, Stratégie et le Journal du Luxe, ainsi qu'une trentaine d'événements. Lorsque l'étudiant entre dans une école Media School, nous allons le suivre tout au long de sa vie avec de la formation, de l'information et un réseau de professionnels qui continuera à le recruter.
Pour en savoir plus sur Media School, rendez-vous sur le site mediaschool.eu.
Hype FM à votre service. Pour accompagner la promotion de votre entreprise, de votre commerce ou les initiatives de votre association, Hype FM se tient à votre disposition. Diffusée sur Paris, Marseille et Nice, notre antenne vous permettra d'atteindre un large public auquel il convient d'ajouter les internautes qui nous suivent en direct partout en France, mais également à l'étranger via notre site internet. Prenez contact avec nos services qui vous réserveront le meilleur accueil et qui vous proposeront la formule la mieux adaptée à vos projets et à votre budget. Appelez le 01 43 53 19 90, 01 43 53 19 90 ou laissez-nous un message sur hyperadio@wanadoo.fr et nous ne manquerons pas de vous recontacter.